les musiciens. Je crois que ce chant, ne vois-tu pas venir, je crois que c'est le plus beau. Et lire Jean chapitre 12, versets 26 à 36 ce matin. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, il sera aussi. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Évidemment, Jean a écrit ça longtemps après, hein, on comprend. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu donc, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. En fait, je voulais prêcher ce message vendredi. Et puis, je l'ai fait écouter à quelques personnes, parce que je l'avais préenregistré. Et ils m'ont dit, non, il ne faut pas que tu prêches ça vendredi, il faut que tu prêches ça dimanche. C'est pourquoi vendredi, je vous ai prêché la prédication que je voulais vous prêcher ce matin. Donc, elles sont inversées. Ce qui fait qu'après avoir écouté ce message, allez écouter celui de vendredi, il va prendre du relief. Mais je pense que les frères et sœurs qui m'ont conseillé m'ont bien conseillé. Jésus était sur terre, il était la sagesse incarnée. Et nous le voyons être sage dans toutes les situations. Et il a traversé des tas d'histoires. Bon, il était tout puissant et il aurait pu se servir de sa force pour échapper aux voyous religieux qui le diabolisaient, qui le chassaient, qui voulaient sa mort. Mais il a simplement évité ces gens en allant ailleurs et même en se cachant loin d'eux. Jésus a enseigné ses disciples, donc nous aussi, en disant, si vous m'aimez, si vous me servez, suivez-moi. Où? Ben là où il se cache. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. De temps en temps, il faudra vous aller vous cacher. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et alors cette phrase terrible, mettez-vous en garde contre les hommes. Contre les femmes aussi, il ne faut pas oublier Madame Osborne, il ne faut pas mettre des femmes de côté. Jésus nous enseigne donc d'être sage comme lui, d'être prudent comme lui, de nous mettre en garde contre les hommes comme lui. Et le cas échéant, de nous cacher comme lui. Jésus savait qu'il devait mourir à Jérusalem, mais il savait quand il devait mourir à Jérusalem. C'est pourquoi, quand il voyait que ça devenait un petit peu trop dur, eh bien, il n'allait pas à Jérusalem, il allait ailleurs, il allait se cacher ailleurs. Il ne se lançait jamais dans la gueule du loup, parce qu'il était prudent comme un serpent. Il était venu pour mourir, mais par amour, et il y avait des choses à accomplir avant. Et c'est toujours par amour qu'il les accomplissait. L'amour, c'était la première de ses motivations. Si la sagesse, si Jésus est en nous, si elle est la sagesse incarnée, si elle est en nous, eh bien c'est l'amour qui se trouve là en premier. Vous voyez, le vrai chemin de la vraie sagesse, En fait, il se reconnaît à trois éléments. Bon, je suis sûr que vous allez dire non, il se reconnaît à cinq éléments ou six éléments, parce qu'on peut faire, on peut dire. Bon, moi ce matin, j'ai choisi trois éléments. Le premier, c'est donc l'amour. Évidemment, pas n'importe quel amour. Un amour équilibré, selon les critères de Dieu. Ah bon, il y a un amour équilibré? Ben oui, évidemment. Jésus, par exemple, aimait le Père. Et puis il aimait aussi ses ennemis, mais ce n'était pas tout à fait la même chose qui en résultait. Il était soumis au Père, il n'était pas soumis à ses ennemis. Pas charrié. En aucun cas, Jésus aurait fait par amour quelque chose qui aurait été à l'encontre de la volonté de Dieu et qui aurait blessé Dieu, son Père. L'amour donc a des degrés qui doivent être respectés. L'amour philéo, c'est très bien, très bien. Mais il ne doit pas être au-dessus de l'amour agapé. Vous ne pouvez pas aimer votre femme et vos enfants plus que Dieu. Cependant, si vous n'aimez pas votre femme et vos enfants comme Dieu le veut, eh ben, vous n'êtes qu'un renégat. C'est ce que les Écritures nous disent. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5,8. Alors ceux qui disent, moi l'œuvre de Dieu c'est un number one, et puis la famille, je préfère renoncer à ma femme et mes enfants, non. Non. C'est prendre les Écritures de façon erronée. Bien sûr que on renonce à sa femme, à ses enfants, si évidemment ils s'opposent d'une façon magistrale, etc. Je ne vais pas vous faire une explication, mais faire l'œuvre de Dieu à sa façon, à la façon de Dieu, est la première preuve que nous avons un amour réel. Donc, faire l'œuvre de Dieu ne doit pas détruire la famille. Et je connais beaucoup trop de serviteurs de Dieu qui ont perdu leur famille parce qu'ils ne s'en occupaient pas correctement selon les critères de l'amour juste. Il doit y avoir une sagesse. Et cette sagesse, elle est étayée par une connaissance de Dieu, de ses règles, des bases élémentaires de l'amour conjugal, de l'amour pour ses enfants, et ensuite de l'amour fraternel, une connaissance de ce que c'est que, voilà, et l'amour pour la création, l'amour pour les gens de ce monde qui se perdent, et puis l'amour pour nos ennemis, mais on les aime. De temps en temps, on s'en cache quand même aussi, hein, on s'éloigne. Hein. Le vrai chemin de la sagesse se reconnaît en ce que l'amour, selon Dieu, est à la première place. Ça veut dire qu'il y a des autres places. Le deuxième élément de ce qu'est la sagesse de Dieu, c'est qu'elle doit avoir une application pratique dans notre vécu. Si tu as une sagesse qui n'a pas une application pratique dans ta propre vie, ta sagesse, elle est inutile. Elle est comme un bateau qui reste au port. Alors, bien sûr, un bateau qui reste au port, il est en sécurité, il est plus en sécurité au port que sur la mer, même sur la mer calmée, parce que la mer calmée, tout d'un coup, elle peut devenir une mer agitée. Alors, dans le port, un bateau, il est beaucoup plus en sécurité, mais il n'a pas été construit pour rester dans le port. Vous voyez, c'est des petites paraboles que je fais ce matin. Il faut réfléchir, qu'est-ce que je veux dire. Votre sagesse, si elle n'a pas d'application pratique dans votre vécu, elle est inutile. Exactement comme la vie communautaire peut devenir inutile si elle est le but. Elle n'a pas été construite pour ça. Jésus ne bâtit pas son église pour qu'on vive dans son église, point barre. Et nous qui y vivons, nous n'avons pas été créés par Dieu pour être contents d'être au port, à la communauté. Parce que la vision, rappelez-vous, un homme, une vision, le petit bouquin que j'avais écrit, la vision, c'est la communauté, l'église et l'endroit où on est en sécurité pour apprendre ce qui est utile, pour apprendre à être utile, afin de pouvoir servir évidemment dans la communauté, mais aussi dehors, en étant des témoins vivants, efficaces parmi les loups. Alors, c'est cela la sagesse vraie. Et bizarrement, elle nous enseigne donc à être prudents et aussi à nous mettre en danger. Bien. Hein? Vous voyez, si on reste au port, c'est-à-dire dans la vie d'église, bien tranquille, bien peinard, avec une routine exactement comme celle des gens du monde, métro, boulot, dodo, on s'en va le matin, on rentre le soir, on mange, on papote, et puis on va se coucher, puis le lendemain matin, ça recommence, puis ben voilà. Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Il ne faut pas oublier notre objectif, le pourquoi de l'église de Jésus-Christ. Ceux qui restent trop longtemps au port oublient leurs objectifs, le service pour le salut des gens sur terre et sous terre. Ils oublient l'humanitaire, de prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Ils oublient leurs objectifs. Ils oublient parce qu'ils sont fascinés par les détails de leur routine religieuse, professionnelle, familiale, etc., etc. La sagesse, parce qu'on dit, les vierges folles, elles dorment. Oui, mais pourquoi? La sagesse, elle doit avoir une application pratique dans la vie. Sinon, elle devient une épée, mais une épée rouillée, parce qu'elle ne sert plus à grand-chose. Et puis, quand on veut s'en servir, eh ben, on ne coupe pas ce qui doit être enlevé, on ne fait que de blesser, et en plus, ça s'infecte parce que c'est rouillé. La vraie sagesse, selon Dieu, se reconnaît à trois éléments. Premièrement, l'amour. Deuxièmement, des applications utiles. Troisièmement, le troisième élément est que cette sagesse doit pouvoir être vécue par tous. Par tous. Souvenez-vous. N'oubliez pas, Jésus est la sagesse incarnée. Et 1 Jean 4,17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire qu'il est incarné en vous. Son esprit qui vit en vous, c'est lui qui s'est réincarné, il est en vous. Tout ce qu'il a fait, il a dit que nous pouvons tous le faire. N'importe quel disciple peut faire ce que Jésus a fait. Donc, les trois, amour, pratique, faisable. Amour, pratique, faisable. Voilà les trois éléments de la sagesse selon Dieu. Alors, observons un petit peu l'histoire des Juifs qui tournent en rond dans le désert. Pourquoi est-ce qu'ils tournaient en rond? Ça, c'est une bonne question. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Mais la réponse, elle est simple. C'est Moïse, leur guide, qui les faisait tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cou raide et qu'ils en avaient reçu l'ordre. Bon. L'Église aujourd'hui tourne en rond, nous tournons en rond. Nous repassons toujours par les mêmes histoires, encore et encore et encore. Par manque de sagesse. Parce que un ou plusieurs des trois points manquent à notre sagesse. La Bible nous dit qu'un disciple heureux est un disciple accompli, un disciple en marche. Donc, quand on dit qu'on est en marche, on dit aussi qu'on est en marche sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Il nous faut donc prêter attention à Jésus, au chemin sur lequel nous sommes en train de marcher, parce que c'est le chemin qui nous enseigne la meilleure façon de parvenir à nos objectifs, à court, lointain, loin et très loin, très long terme. Le chemin, c'est Jésus. Et nous aimons Jésus, nous aimons tous Jésus, pourtant eh ben, on est dans une routine qui nous empêche de voir. Par manque de vision, le peuple périt. Alors, le secret, c'est de puiser dans ce que nous avons l'habitude de regarder et de vivre tous les jours, de puiser. Quand on puise en autre quelque chose, on va chercher, puis on prend autre. De puiser les secrets que la routine nous empêche de voir aussi. Ce matin, je vous exhorte à faire un exercice. C'est vendredi, je vous ai dit que j'allais vous faire faire un exercice. On ne va pas le faire ici tout seul, toute l'équipe, tous ensemble, mais vous allez le faire personnellement. Enfin, vous le ferez si vous voulez, c'est vous qui voyez. Vous le ferez si vous voulez. Voilà l'exercice, je l'ai fait. Je ne l'ai pas pris dans un bouquin de pensée positive, je ne l'ai pas pris dans les exercices de Loyola, voilà, Je vous dis ça pour vous rassurer, afin que vous n'ayez pas peur, parce que quand on a peur, l'amour ne peut pas se manifester. Donc, sortez de chez vous, par exemple cet après-midi, un moment, vous allez au village. Au village, enfin vous qui n'habitez pas avec nous, dans la communauté, vous allez là où vous avez l'habitude d'aller, je ne sais pas, à la boulangerie, au marché, enfin peu importe. Il faut que l'expérience dure à peu près 20 minutes. Mais vous allez y aller en marchant pendant à peu près 20 minutes, mais il faut que ça dure au moins 2 à 3 fois plus longtemps que normal. C'est-à-dire, si vous allez à la boulangerie en 5 minutes, il faut que ça dure au moins, allez, 20 minutes. 10, 15, 20 minutes. C'est-à-dire, vous allez marcher comme ça. C'est énervant. Vous allez voir, c'est énervant. Et alors, en marchant, faites attention à tous les détails. Regardez les gens que vous croisez, le paysage autour de vous, les arbres, les décorations de Noël épouvantables, les odeurs, les couleurs. Et puis ensuite, eh bien, vous allez faire ça pendant 7 jours. 7 jours, comme les Juifs qui ont tourné 7 jours autour de Jéricho. Et si vous regardez votre montre pendant que vous faites cet exercice, ben ça va être terrible. Je dis que c'est terrible de marcher lentement, mais en regardant sa montre, c'est terrible. Parce que vous allez voir que le temps ne va pas s'écouler comme vous en avez l'habitude. Et vous allez apprendre quelque chose, mais vous allez le vivre. C'est que vous déterminez le rythme du temps. En marchant comme ça, lentement, si vous regardez votre montre, vous allez voir que le temps passe très lentement, lui aussi. Vous allez marcher un moment comme ça, puis d'un coup, vous allez regarder votre montre en pensant que vous allez marcher 5 minutes, et vous allez voir, vous allez marcher 1 minute 30. Faites-le, vous allez voir, c'est rigolo. Vous allez apprendre que c'est vous qui déterminez le rythme du temps. Alors, arrêtez de regarder votre montre, c'est une torture, et prenez plaisir, efforcez-vous à avoir du plaisir, à décider d'avoir du plaisir à marcher comme ça, à cette vitesse, à laquelle vous n'êtes pas habitué. Vous voyez, je vous parlais des habitudes, il faut casser les habitudes, on dit toujours il faut casser les habitudes, ça c'est un très bon exercice pour casser les habitudes. En effectuant des gestes routiniers d'une autre manière, ça permet d'aider à développer en soi quelque chose de nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle. En passant par exemple le long du mur, moi c'était ce que j'ai fait, en passant le long du mur, en allant au village, vous savez, le long du château Saint-Simon, vous allez voir que votre imagination va se mettre à fonctionner en votre faveur. Enfin, moi, j'ai une imagination qui galope, j'espère que vous aussi. Et vous allez penser aux gens qui ont vécu là avant vous, et puis qui se sont aimés, ou qui se sont haïs, qui sont morts. Enfin, bon, vous allez penser aux soldats, vous allez penser à leurs chevaux, à leurs combats, vous allez entendre le bruit des sabots, vous allez penser aussi au bruit de bottes pendant la guerre, durant la dernière guerre. Vous savez que notre château était occupé par les Allemands à cette époque-là. Et vous allez penser à tout ça. Laissez votre imagination aller et vous allez voir que votre village, ce n'est pas seulement l'endroit où vous allez chercher le pain. C'est surtout un endroit historique. Une histoire là où il y a eu des histoires. Avec des héros, avec des lâches. C'est un lieu qui était construit il y a quelques centaines d'années par des gens qui avaient tout quitté pour venir s'établir ici, au milieu des marécages, parce que c'était des marécages. Et puis pendant que vous penserez à tout ça, tout ce monde sera comme présent, puisque vous y pensez, et vous serez là au milieu et vous comprendrez que vous n'avez jamais prêté attention à tout ça. Pourquoi faire ça? Parce qu'alors après, quand vous rentrerez près de votre épouse, près de votre mari, près de vos enfants, près de vos frères et sœurs, près de vos amis, près de vos ennemis, près des inconnus, près de moi, vous vous sentirez très souvent pressé, pressé d'avoir une réponse, pressé de voir comment ça va se tourner, pressé de savoir, d'avoir la guérison, pressé de voir la paix s'installer, pressé de voir des progrès. Et puis vous vous souviendrez que, en fait, votre anxiété, elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à une chose, à faire que le temps est long. Ça sert à rien de s'inquiéter, dit Jésus. Ça sert à rien de redouter, ça sert à rien de craindre, ça sert à rien de supposer. C'était une de mes prédications il n'y a pas longtemps. Il faut jouir du moment présent. Et vous allez vous rendre compte aussi que vous avez été trop pressé, vous avez gravi trop tôt, trop rapidement les degrés de la connaissance. Vous n'avez pas mis en pratique les choses, vous avez simplement avalé tout ça. Mais vous n'avez pas réfléchi à l'importance que ces choses ont dans le monde spirituel, dans le monde physique. Vous n'avez pas réfléchi à ça, vous avez réfléchi à la doctrine. Alors, si vous avez gravi trop rapidement, arrêtez-vous, marchez lentement, pensez, réfléchissez, méditez. Parce que sinon, ce qui va être révélé à partir de maintenant risque de ne vous servir à rien. Vous voyez, il faut prendre le temps en main. C'est une création de Dieu. Il faut observer ce qu'il y a sur le chemin, au milieu du chemin et de chaque côté du chemin. Observer aussi l'œuvre du pied, du genou, du doigt, du pouce. Pas simplement sa petite vision, de sa petite idée, de sa petite certitude. Il faut prendre le temps en main, observer, regarder. Vendredi, je vous parlais, celui qui regarde ces choses, qui observe ces choses, il trouve le bonheur. Parce que le secret, c'est que là où se trouve ton trésor, là se trouve aussi ton cœur. Alors, je pourrais vous dire, ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui ont des oreilles et n'entendent pas, ceux qui ont des yeux et qui ne voient pas, ils manquent de quoi? Ben, de sagesse. De sagesse. Des trois éléments de ce qu'est la sagesse, ou de un des éléments, ou de deux des éléments de ce qu'est la sagesse. Et puis, rien n'est simple et personne n'est semblable aux autres. Ils sont tous différents. C'est pourquoi la main ne dit pas au pied, tu ne fais pas partie du corps. Mais elle bénéficie des services, on bénéficie du service des uns et des autres, et on est dans l'ingratitude. Prenez le temps d'être ce que vous devriez être. Là où vous en êtes, faites l'exercice que je vous propose. Calmez-vous, pardonnez-vous, recevez la sagesse. Il y a plusieurs mois en arrière, je vous ai dit qu'il serait bon que vous ayez toujours sur vous une pierre de gratitude. Qui c'est qui l'a encore? Ah, quelques-uns l'ont. Elle est censée nous permettre de nous souvenir que, bon, il y a des problèmes dans la vie, mais on peut être dans la gratitude. Moi, chaque fois que j'ai un problème et que je mets la main dans la poche, je dis, ah, attends, il faut que je me souvienne des bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, il y a tellement de choses merveilleuses. Et c'est une pierre, c'est un pense-bête, c'est pas un gris-gris. Entrez dans la gratitude. Aujourd'hui, je vais vous donner autre chose. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous bourrer les poches. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, il n'y a pas besoin de le mettre dans la poche. Vous l'avez sur vous depuis toujours. Vous avez ce truc-là sur vous depuis toujours. C'est l'ongle de votre index droit. Vous en avez tous un? Votre ongle va vous aider, il va vous aider à vous souvenir de cesser une chose, de cesser une chose que vous n'aimez pas. Parce que beaucoup trop de chrétiens disent vouloir vivre par la foi, mais c'est une habitude de dire ça, et puis ils continuent à vivre l'ordinaire. Ils nient l'extraordinaire. Celui qui croit dans l'extraordinaire, il transforme son ouvrage en amour. Il y a une chose qui arrive à tout le monde tous les jours. Nous voyons toujours, tous, le meilleur chemin à suivre et nous ne prenons que le chemin auquel nous sommes habitués. Ça, c'est typique. Pourtant, on est malheureux, on n'aime pas, mais on reprend. C'est comme moi, au début, avec mon ordinateur, il y a un truc qui ne marchait pas, je croyais, alors, en appuyant sur ce bouton, ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Et je rappuyais toujours sur le même bouton. C'était inutile, ça ne marche pas, ce n'est pas le bon bouton. Mais voilà. Obstiné. Vous voyez, frères et sœurs, le meilleur moyen de sauver nos rêves, c'est d'être généreux avec nous-mêmes. On ne peut pas être généreux avec les autres si on n'est pas généreux avec soi-même. Vendredi, je vous parlais de tous ces chrétiens qui ont tué leurs rêves. Ayant tué leurs rêves, la première réaction, c'est d'accuser les autres. Ouais, on ne m'a pas aidé. Ouais, ils ne m'ont pas compris. Ouais, ils ne m'ont pas écouté. Ouais, ils sont pas. Ils sont comme s'ils sont. Et puis la deuxième, c'est de s'accuser soi-même. On est tous pareils. Et puis ensuite, c'est de s'auto-punir. S'auto-punir. Pourquoi ? Parce qu'on sent un mal-être, alors on s'auto-punit. Puis on augmente comme ça notre mal-être. Il faut traiter avec rigueur, toute tentative d'auto-punition. Quand vous avez, par exemple, un sentiment de jalousie ou de ressentiment, mettez-le au pied du Seigneur Jésus-Christ dans la prière très sincèrement, et puis vous dites, Seigneur, j'y touche plus. Seulement, on a fait ça tellement souvent que maintenant, c'est devenu une habitude. Il faut autre chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de mettre au pied du Seigneur. Oui, mais il faut rajouter un truc, parce que c'est devenu une habitude et ça ne fait plus rien aller, il faut être honnête. Il faut arrêter de se mentir. Trop de chrétiens ont l'habitude de tout remettre au pied de la croix, puis quand ils se relèvent, ils reprennent tout. Alors écoutez ça. Nous devons transformer en douleur physique la moindre apparition d'une douleur spirituelle ou morale, comme par exemple le remords. Déposez au pied de la croix votre culpabilité, le regret, tout ce que vous... Et puis, mais débarrassez-vous de la souffrance que cela cause en transformant cette douleur spirituelle et morale en souffrance physique. On dira, bon, on va se flageller comme les... Non, c'est pas ça. C'est pas la même démarche. La culpabilité, l'indécision, la lâcheté, tout ça, c'est des douleurs psychiques, morales, spirituelles, et il faut les transformer en douleurs physiques. En faisant d'une douleur spirituelle, morale, une douleur physique, nous saurons le mal qu'elle peut nous causer. On va pouvoir le mesurer beaucoup plus avec les sens. Les douleurs morales, spirituelles, elles sont... Ah, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de contour, c'est terrible, c'est lourd, c'est... C'est étouffant, mais on ne peut pas le visualiser. Une douleur physique, on peut. C'est bien un endroit bien précis. Donc voilà le deuxième exercice que je vous propose. Pensez à une chose que vous avez faite hier ou aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas eu le temps, c'est de bonne heure encore. Mais pensez à une chose que vous avez faite hier ou dans la semaine ou quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous fait souffrir encore spirituellement. Vous avez un regret, vous avez un remords, vous n'êtes pas bien, vous êtes jaloux, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez une peine à l'intérieur. Quand on demande à quelqu'un de faire cet exercice, parce que j'ai demandé déjà à quelques-uns, ben la première fois, on trouve rien. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. On n'a pas l'habitude. On subit la douleur, puis c'est tout. Mais on n'essaye pas d'en faire un point sur lequel on peut focaliser. Alors il faut chercher un petit peu ce qui nous empoisonne la vie. Et voilà, on le cherche, on le regarde en face. Par exemple, laisser un sentiment de jalousie entrer en vous, c'est être cruel envers vous-même. Je vous ai toujours dit, quand vous ne pardonnez pas quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. Donc ça, je peux faire du mal, entre autres. Laisser le ressentiment entrer en vous, c'est être cruel envers vous-même. Alors, quand vous aurez trouvé ce que vous faites comme mal spirituel, moral, etc., placez votre index dans la racine de votre ongle du pouce. Vous voyez, là. Et puis, vous enfoncez bien profondément jusqu'à ce que ça fasse vraiment très mal. Là, je suis en train de le faire, je vous promets, c'est très désagréable. Vous allez ressentir une douleur physique et toute votre attention va se focaliser sur cette douleur physique. Et la sensation d'être jaloux, la sensation de ceci, toutes ces espèces de... ça va disparaître. Vous allez voir, faites-le. Ça marche. Déplacez la douleur spirituelle dans une douleur physique avec votre index. Chaque fois qu'il te passe par la tête une pensée dont tu crois qu'elle va te faire du mal, hop, l'index, dans la racine du pouce de l'ongle, la jalousie, l'autocompassion, la souffrance d'amour, l'envie, la haine. Alors il faut procéder de cette manière. Enfonce l'ongle de ton index dans la racine de l'ongle du pouce jusqu'à ce que tu ressentes une douleur intense. Concentre-toi sur cette douleur physique. Elle reflète le champ physique. Cette douleur-là, elle reflète dans le champ physique la douleur que tu as sur le plan spirituel et moral. Alors, il faut que tu supprimes la pression de ton index que lorsque ta pensée de jalousie ou autre disparaît. Maintenant, ne te fais pas saigner quand même, hein. Ne pas vous envoyer à l'hôpital, ce n'est pas le but. Répète cet exercice autant de fois que c'est nécessaire, jusqu'à ce que la pensée te quitte. Elle reviendra, mais recommence. Elle reviendra, mais recommence. Elle commencera à venir un petit peu moins souvent. Il y aura des intervalles plus longs. Parce que dans ton être intérieur, tu sauras que si tu acceptes ça fait une souffrance physique. Vous allez créer une habitude de maîtrise. Elle disparaîtra si tu n'oublies pas de pratiquer cet exercice chaque fois que quelque chose de mal, tu laisses entrer quelque chose de mal dans ta pensée, dans ton spirituel, dans ton moral. Prière de gratitude, j'ai vu la moitié l'ont déjà oublié. Faites comme vous voulez. Méfiez-vous, pensez que c'est quelque chose de mauvais, et puis ne le faites pas, puis restez comme vous êtes, c'est bien. Vous avez raison aussi, toujours. De toute façon, que vous disiez oui, que vous disiez non, vous avez raison, c'est bien. Trop de chrétiens sont hyper spirituels et ils chassent leurs mauvaises pensées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. Et puis aussi parce que Dieu n'est pas notre boy qui va nous toucher avec sa baguette magique pour que tout aille bien. Ça, c'est de l'infantilisme. Alors prenez-vous en main, faites ce que vous pouvez. Là, je vous donne un truc, inventez-en un autre. Oubliez l'index et le pouce, écrasez-vous les pieds sous une meule. Non, je plaisante. Mais soyez créatifs pour votre bien. Faites ce que vous pouvez pour maîtriser tous ces mauvais sentiments. Et vous verrez que vous habituerez votre vie à se manifester autrement. L'amour est le plus grand, la plus grande des choses. Mais comme c'est la plus grande des choses, l'homme dégénéré a trouvé le moyen d'utiliser l'amour pour souffrir. Nous souffrons parce que quelqu'un ne nous aime plus. Nous souffrons parce que quelqu'un ne vous fait plus confiance. Nous souffrons parce que quelqu'un nous a quittés ou parce que quelqu'un ne veut pas nous quitter. Et si nous sommes célibataires, nous souffrons parce que personne ne nous aime. L'amour. Si nous sommes mariés, beaucoup transforment leur mariage en routine, en esclavage. C'est terrible. Toutes ces souffrances dues à l'amour. Alors vous voyez, quand le Fils de notre Père Céleste est descendu sur la terre, il a apporté l'amour. On le sait, on le dit, on le croit. Mais comme l'humanité dégénérée ne peut pas comprendre ce que c'est que l'amour, elle ne peut pas comprendre ce que c'est que l'amour à part que c'est comme une souffrance. Elle ne comprend l'amour que sous forme de souffrance, sous forme de sacrifice. Alors, on a fini par le crucifier. Et sans ça, Dieu le sait, on n'aurait jamais cru en son amour. Si Jésus avait dit un jour, dans un sermon, « Voici, en ce moment même, je prends tous vos péchés sur moi. Vous êtes pardonnés, le Père vous aime. Amen. » Les gens seraient repartis chez eux, un sermon de plus, un sermon de moins. Non, il a offert en spectacle, sur la croix, un spectacle terrifiant pour montrer son amour, pour qu'on s'en souvienne, quelque chose qui nous marque. Parce que tous, nous sommes habitués à souffrir chaque jour à cause de nos propres passions, et de voir ce sacrifice qu'il a fait, ça nous impressionne, ça nous marque. Voilà pourquoi il l'a fait, il l'a fait par amour. Très souvent, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis une chose aussi horrible? Par amour, parce que sinon on n'aurait rien compris. Parce que c'est comme ça que l'amour se manifeste sur cette terre. C'est quelque chose qui fait souffrir. Moi, je me rappelle même au début, quand j'allais voir Michou au Canon de la Nation, parce qu'elle travaillait juste à côté, à l'hôpital, et puis on se donnait rendez-vous dans un restaurant qui s'appelle le Canon de la Nation. Et bien, quand je la voyais arriver, ça me faisait boum, une douleur dans le plexus solaire. Vous savez, même là, ça fait mal, l'amour. C'est bête, hein. C'était une joie, mais ce qui faisait mal. C'est bizarre. Est-ce que vous avez pensé à ce que je vais vous dire là? Écoutez bien. Barabbas. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça signifie? Ça signifie, bar, ça veut dire fils, et abba, ça veut dire père. Les desseins de Dieu sont sages au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Quand Pilate a demandé au peuple de choisir, il lui a laissé, en réalité, il lui a laissé aucune alternative. Il a montré l'homme flagellé, brisé, Jésus. Et puis il a montré Barabbas, le révolutionnaire. Dieu savait que le peuple allait envoyer le plus faible à la mort, parce qu'il fallait que son amour soit démontré. Mais quel que fût le choix du peuple, de toute façon, le fils du père aurait été crucifié. Ça aurait été le bon ou le mauvais. Je ne veux pas vous mâcher tout. Réfléchissez à ces choses. Si l'esprit est en vous, vous allez trouver le bonheur selon Proverbe 16, 20. Et il vous montrera qui vous êtes, où vous en êtes et où vous allez. Moi, je sais où je vais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs. Permettre qu'ils réfléchissent, qu'ils parlent entre eux et qu'ils puissent trouver véritablement ce que tu veux leur montrer. Merci Jésus. Amen.